Je vous invite à garder vos bibles ouvertes, donc à la page 769. Et je vais prier avant d'annoncer la parole. Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour cette parole qui nous révèle qui tu es et comment nous pouvons vivre à la lumière de ta grâce. Et nous voulons te demander ce matin de nous montrer des choses merveilleuses dans ta parole pour que nous puissions vraiment te connaître et vivre d'une manière qui fait de toi notre joie et qui te fait honneur. Nous te demandons ces choses au nom de Jésus. Amen. Alors voilà un passage dans la Bible qui délie les langues, qui suscite quand même un peu quelques débats. C'est pas facile de parler de telles choses au XXIe siècle, même dans la société, mais aussi dans l'Église. Je crois que c'est le mot soumission, la soumission qui fait rebuter à plus d'un. Et c'est vrai que ce mot semble être profondément en décalage avec notre culture. Il semble appartenir à une autre époque révolue. Alors si, je l'ai fait en fait, si vous mettez dans Google « femme au foyer aux années 50 », vous avez plein d'images, plein d'articles. Et je pense que c'est probablement l'image que nous avons en tête lorsque nous entendons le mot « la soumission ». Mais la Bible n'est pas un livre qui date des années 50. Elle n'a pas été écrite dans la culture occidentale bourgeoise des années 50. Tant s'en faut. Et pour mieux comprendre de quoi il s'agit, il faut aller un peu plus loin. Voilà, dès les premières pages de la Bible, Dieu parle de l'humanité en termes d'hommes et de femmes, tous les deux créés à son image, égaux en dignité et valeur devant lui. Alors ça, c'est un point fondamental, c'est un point fondateur, on ne peut pas le dire trop souvent. Parce que oui, en effet, il y a eu quand même des dégâts, il y a eu des fausses idées à ce sujet dans l'Antiquité. À l'époque de Jésus, au XIXe siècle, et aujourd'hui au XXIe siècle, avec cette guerre des sexes. Et dès les premières pages de la Bible, nous voyons comment Dieu ne confond pas l'homme et la femme. Il ne crée pas un autre homme pour aider Adam, mais il crée une femme, comme lui, mais en même temps différente. Il y a de l'altérité. La femme et l'homme ne sont pas identiques, mais bien complémentaires, égaux en dignité et valeur devant lui et pourtant différents, ayant des rôles distincts, différents, complémentaires. Cela dans le foyer, on va le voir, comme dans l'Église. Et pour Dieu, c'est quelque chose à célébrer. Ça fait partie de sa bonne création. Et si quelque chose nous rebute dans tout ça, c'est parce que nous n'avons pas encore saisi la beauté du dessein du Créateur. Il y a toujours un peu de chemin à faire, un peu de travail à faire pour mieux voir, mieux saisir cette beauté dans la création. Alors, il faut dire que dans la chute, lors de la chute de l'humanité, en tout cas la descente de l'humanité dans la rébellion contre son Créateur, le péché, a mis à mal l'harmonie qui régnait alors entre la femme et l'homme dans le couple. La Bible est très réaliste, elle cadre bien avec la réalité. À la suite de la chute, Dieu a dit à la femme, « Tes désirs porteront vers ton mari, mais lui, il dominera sur toi. » Autrement dit, la femme essaiera de contrôler son mari, mais son mari, par la force physique, dominera sur elle. C'est un triste constat de cette lutte qui n'a de cesse de continuer dans notre société aujourd'hui. Nous allons voir ce matin, tout du moins je l'espère, que l'enseignement de ce passage n'a rien à voir avec ce que j'appelle le machisme patriarcal, où l'homme domine sur la femme de manière primaire, où il la traite, qu'il en soit conscient ou non, d'être inférieur. La Bible ne tolère pas ce point de vue-là. Elle n'a rien à voir non plus avec un féminisme négationniste, le 5, je ne sais pas pourquoi il y a un 5 là, mais ça n'a rien à voir, ouais, c'est une faute. Un féminisme négationniste qui gomme les différences que Dieu a mises dans la création entre l'homme et la femme. qui gomme les rôles distincts que Dieu a donnés aux époux, à l'épouse et à l'époux. Ça vaut la peine d'étudier ce passage parce que cette attitude-là est celle de notre société aujourd'hui. Et cette pensée-là s'imprègne de plus en plus dans nos églises évangéliques, souvent faute d'un bon enseignement, ou même par un désir de s'en affranchir. Mais cet enseignement a tout à voir avec ce que j'appelle la galanterie complémentaire. Alors, le terme n'est pas parfait. Je l'ai piqué d'un pasteur aux États-Unis. Mais il communique l'idée que le mari honore sa femme dans sa différence et la femme y répond à son tour, à sa manière, de manière complémentaire. Les deux n'ont pas les mêmes rôles, mais au sein de cette altérité, au sein de cette complémentarité, il y a un vrai souci d'être galant, aimant, au service de l'autre, pour son bien. Et nous allons voir que si cette complémentarité, si surtout cette confiance qui la sous-tend était bien abîmée lors de la chute, dans la rédemption, dans l'évangile, cette relation complémentaire est en passe d'être restaurée. Dans la rédemption, dans l'évangile, cette complémentarité n'est ni oblitérée, ni dénigrée, mais chérie, célébrée, une source de grande joie et de liberté. Nous avons vu ces dernières semaines dans cette épître de Paul aux Éphésiens que Dieu veut que nous marchions d'une manière digne de l'appel que nous avons reçu en Jésus-Christ, lui qui est le chef de l'univers. Notre manière de marcher, de vivre la vie quotidienne et doit être façonnée par la grâce, cet évangile de grâce, cette faveur imméritée qui nous a rendus à la vie, qui a fait de nous un peuple, qui a fait de nous un temple du Saint-Esprit. Nous avons vu ces dernières semaines que c'est en implantant la vérité de cet évangile libérateur dans nos cœurs, dans notre pensée, que nous pouvons nous défaire de notre vieil homme qui se rebelle contre Dieu et nous revêtir d'une nouvelle vie, une vie en Jésus-Christ, une vie qui vit pour la gloire de Dieu. Et c'est ce même évangile, cet évangile de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ à la croix, qui peut transformer nos mariages, qui peut restaurer petit à petit cette complémentarité qui fait honneur à Dieu et célèbre la bonté de sa création et de son œuvre libératrice, rédemptrice, salvatrice en Jésus-Christ. Alors, rentrons quand même dans les détails de ce passage. Et nous allons voir ce matin que le mariage est une parabole de l'Évangile lui-même. Le mariage est une parabole de l'Évangile lui-même, et ensuite, où la femme imite l'Église, et où le mari imite Jésus-Christ. Voilà. D'abord, cette parabole. J'aimerais que nous voyions en premier que le mariage a une vocation beaucoup plus importante qu'on ne le pense parfois. Oui, il y a le train-train quotidien, le travail, les enfants, la maladie, les vacances, les joies, les peines. Mais au fond, au-delà de ces choses, mais peut-être mieux, c'est mieux dit, en fait, dans ces choses-là, le mariage est une parabole de l'Évangile lui-même. Un théologien a dit, « Tout comme Dieu a créé l'humanité à son image, Dieu a fait le mariage terrestre à l'image de son propre mariage avec son peuple. » Et ce passage le montre de manière très très claire. L'apôtre Paul nous montre que la femme, dans son rôle distinct, imite l'Église, et son mari, dans son rôle distinct, imite Jésus-Christ. Et ensuite, il va encore plus loin que ça. Relisons les versets 31 et 32. « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux ne feront qu'un. Ce mystère est grand, je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. » Alors, verset 31 est une citation du livre de la Genèse, donc le premier livre de la Bible, qui raconte la création et l'instauration du mariage dans le jardin d'Éden. Et Paul nous dit que ce mystère est grand. Alors, un mystère dans le Nouveau Testament, ce n'est pas quelque chose d'inconnu ou mystérieux, mais quelque chose qui était inconnu, mais qui maintenant a été révélé en Jésus-Christ, dans l'Évangile. Et ce qui a été révélé, c'est que le mariage, cette institution divine entre la femme et l'homme, parle de manière ultime de Jésus et l'Église. Nos mariages terrestres, humains, cités à terre, ont pour vocation ultime, ils l'ont toujours eu, de refléter le mariage à venir entre Jésus-Christ, l'époux, et l'Église, son épouse. Le mariage humain est comme une parabole qui miroite, qui reflète ce que Dieu est en train de faire au cœur de l'univers. Le mariage n'est pas juste une institution pratique pour mieux organiser la société ou pour canaliser nos désirs sexuels, mais il a toujours eu cette vocation extraordinaire de refléter, de parler du mariage entre Jésus et son Église, son épouse. Du coup, le mariage n'est pas quelque chose d'anodin, mais extraordinaire, époustouflant. Quelque chose qui chante les louanges de Dieu, qui célèbre la grandeur de sa grâce. Et au cœur de cette relation entre Jésus-Christ et son Église est une alliance. Une nouvelle alliance, scellée par son propre sang à la croix. C'est une alliance permanente, incassable, de pardon, de grâce et d'amour. Et c'est pour ça que c'est important de voir ce lien, parce que dans la mesure où nos mariages humains, quoique temporaires, et de cette création, se calquent sur cette alliance permanente, incassable, de pardon, de grâce, de fidélité, de bienveillance, d'humilité, d'amour, ils reflèteront quelque chose de la grandeur de ce mariage éternel. Et c'est pour ça que l'Évangile doit être au cœur du mariage. Si vous voulez un bon mariage, un mariage qui reflète celui, le vrai, le permanent à venir, il faut que l'Évangile soit dans votre pensée, qu'il anime votre cœur. Il faut saisir l'Évangile, s'enraciner dans sa grâce. Et ça pour comprendre la vocation évangélique du mariage. Celui qui a donné le mariage comme un beau cadeau veut que nous vivions ces rôles différents, les rôles dans cette parabole, non pas pour nous opprimer, non pas pour nous écraser, mais pour nous aider à vivre cette parabole à la gloire de Dieu et pour notre plus grand bien et notre plus grand bonheur. Alors, comme nous avons dit, nous l'avons déjà dit, donc, dans cette parabole qui reflète cette réalité permanente à venir, la femme et son mari ont des rôles distincts. Donc le verset 22 nous dit « Femme, soumettez-vous à votre mari comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le Sauveur. » Alors certains vont dire à ce stade, qu'en est-il du verset d'avant que nous avons vu la semaine dernière « Soumettez-vous les uns aux autres », donc c'est juste le verset 21. Est-ce que ça annule ou change cette soumission de la femme? L'un n'empêche pas l'autre. Dans l'Église, nous sommes tous appelés à avoir cette attitude d'humilité. On considère les autres comme plus importants que nous-mêmes. Mais cela ne réduit pas à rien l'ordre que Dieu a mis dans sa création et aussi dans l'Église. Il y a deux versets d'instruction ici pour les femmes et à peu près 8 versets pour les hommes. L'apôtre Paul sait que l'enjeu est là. Si les maris suivent l'exemple de Jésus, ça sera nettement plus facile pour les femmes de se soumettre à eux. Mais il ne commence pas par cette instruction aux maris. Il commence par ces deux versets, car comme pour les maris, voici le comportement qui scie à la femme chrétienne, quelle que soit l'attitude de son mari. La femme est appelée à se soumettre à son mari, à son propre mari, donc pas à tous les hommes en général, donc ça c'est une nuance importante. Le passage un peu connexe dans 1 Pierre 3 nous montre que la soumission n'est pas dépendante de l'attitude du mari, elle n'est pas conditionnelle, mais elle est sa réponse à l'Évangile. Donc verset 22 nous dit « comme au Seigneur ». C'est une réponse au Seigneur, une façon de vivre la foi, de répondre à l'Évangile de la grâce, d'être reconnaissant dans son cœur pour tout ce que Dieu a fait. C'est une façon de vivre qui est centrée sur la croix. Jésus nous demande de mourir à nous-mêmes et à le suivre, même si cela coûte cher. Et pour certaines femmes, il faut le dire, dans certains mariages, cette soumission est sans aucun doute très difficile, très coûteuse. Et heureusement, Dieu a établi d'autres autorités aussi, donc on peut penser aux autorités civiles qui protègent aussi les femmes. Mais au fond, la soumission dans la pensée biblique n'est pas quelque chose d'anormalement difficile. C'est censé être une soumission volontaire et joyeuse. Le mot soumission se réfère à l'idée de se soumettre à l'autorité établie. Dans la Bible, l'autorité établie par Dieu. Au sein de la Trinité, par exemple, Jésus se soumet de manière volontaire et joyeuse au Père. Le citoyen chrétien se soumet à l'autorité civile de manière volontaire et joyeuse. L'enfant chrétien se soumet à ses parents de manière joyeuse et volontaire. Il s'agit d'un ordre qui crée la paix, qui favorise le bien, qui n'a rien à voir avec les notions d'infériorité ou de supériorité. Et on le fait de manière spontanée aussi. Lorsqu'on monte dans un bus, il y a un conducteur et des passagers. C'est le conducteur qui a l'autorité et les passagers s'y soumettent de manière plus ou moins volontaire et joyeuse. Sinon, comme le slogan nous dit, quand chacun fait ses propres règles dans le bus, tout se dérègle. Je trouve que les bus, la STIF, définit bien ce que c'est le péché et ses effets. Alors l'homme n'est pas le chef parce qu'il est meilleur ou plus compétent, mais parce qu'il a été appelé à cette lourde responsabilité. C'est Jésus lui-même qui définit ce que cela veut dire d'être le chef de la femme. C'est le ministère de Jésus qui va nous montrer à quoi ça ressemble. On va définir un peu ce leadership dans quelques instants. Mais en ce qui concerne l'épouse, la femme, son rôle est d'affirmer ce leadership, de le respecter, d'aider son mari à l'assumer. La Genèse nous dit que la femme a été créée comme un vis-à-vis, comme une aide. Elle aide son mari en affirmant son leadership et en l'aidant à l'assumer, car comme on va le voir dans quelques instants, les hommes ont souvent du mal à l'assumer. Ce n'est pas une question d'être toujours d'accord avec lui, ou de ne pas donner son avis, ou même d'accepter un statu quo qui devrait changer, ou de le suivre dans son péché, donc le Seigneur ultime reste toujours Jésus-Christ. Mais c'est une question de vivre selon cet esprit de douceur et de paix dont parle l'apôtre Pierre dans son épître, d'une manière qui affirme son leadership. Il n'y a pas de code à suivre, il n'y a pas une longue liste de choses à faire ou à ne pas faire, ça dépendra des circonstances, des personnalités, des situations, des cultures. Mais en gros, l'apôtre Paul invite les femmes à ne pas usurper son leadership, ou à lui mettre les bâtons dans les roues, mais à encourager leur mari quand ils prennent l'initiative, à lui communiquer son appréciation quand il fait des efforts pour assumer ses responsabilités. Il l'affirme quand il doute de lui. Alors c'est clair qu'un mari n'a pas le monopole du bon sens et de la sagesse. Il a besoin de conseils. Et la femme chrétienne peut lui en donner d'une manière qui communique sa volonté de le suivre, de l'aider à bien diriger la famille. Quand une décision semble hâtive, peu sage, au lieu de lui dire non catégoriquement, elle peut lui demander doucement de prendre le temps de réfléchir, un peu plus, d'en discuter. Ce n'est pas une question d'être une soumise qui n'a rien à dire ou à faire, ni d'une femme qui domine et ne lui permet pas de prendre l'initiative, qui usurpe son rôle, mais d'être son vis-à-vis, une vraie aide, une aide complémentaire qui affirme son leadership avec un esprit de douceur et de paix. Et les hommes célibataires feraient bien de chercher à épouser de telles femmes. Donc je sais, ça c'est une application un peu hypocrite, mais voilà, donc c'est bien de... Ça c'est la femme de 1 Pierre 3. L'Église, elle, se soumet volontairement et joyeusement au leadership, à l'autorité de Jésus. L'Église n'est pas remplie d'angoisse ou de peur. Elle n'est pas silencieuse ou timide. Elle suit avec joie son Seigneur, son Sauveur, l'affirme et lui donne un rôle extraordinaire dans ses plans. Et c'est ainsi que l'Église s'épanouit. Alors le mari n'est pas le sauveur de sa femme, il n'est pas le Seigneur non plus, mais la femme se soumet à son leadership comme au Seigneur Jésus. C'est son acte d'adoration volontaire et joyeuse. Et en cela, en le faisant pour le Seigneur Jésus, qu'elle s'épanouit dans sa foi. Sa joie est en Jésus. Même si son mariage s'avère parfois, par moments peut-être bien difficile. Alors passons à ce que le Seigneur dit au mari par le biais de l'apôtre Paul. Alors c'est au mari que Dieu a donné la responsabilité d'imiter le leadership de Jésus-Christ, d'avoir la responsabilité d'être le chef de sa femme et par extension de sa famille. Mais je pense que ce n'est pas quelque chose de facile pour les hommes de notre époque d'accepter. Ce n'est pas le message que la société nous envoie, et je pense que les hommes de mon âge ont grandi dans une société où c'est quasiment plus permis de parler ou de penser de cette manière-là. Cette pensée biblique peut nous sembler loin, contraire à des principes qui sont peut-être chers à notre société, cette société dans laquelle nous nous sommes baignés depuis notre enfance. Il est peut-être plus facile de se dire « Le mariage est un partenariat, tout sera décidé ensemble de toute façon, sans qu'il y ait vraiment un leader. » Oui, c'est bien un partenariat. Oui, la sagesse dicte que les décisions seront prises ensemble, c'est clair. Mais il incombe à l'homme en premier lieu, c'est pas moi qui le dis, c'est le Saint-Esprit qui le dit par la parole, d'assumer ses responsabilités de leader. Et cette tâche bien difficile n'est pas à esquiver. Notre christianisme peut parfois malheureusement véhiculer une certaine image un peu féminine ou plutôt efféminée. On parle beaucoup de l'amour. Nos chants peuvent être parfois un peu fleur bleue. Il faut beaucoup de consensus, on discute, on prend pas de risques. L'islam, par contre, véhicule une autre image. Il attire certains hommes parce qu'il a une image masculine. Les femmes sont à la place. La dureté ou le mépris pour le mécréant sont tolérés. Le djihad, la guerre sainte, allume un peu la testostérone. Mais le christianisme biblique nous apprend à être des vrais hommes, à assumer nos responsabilités. Et l'exemple suprême de ce vrai homme est Jésus-Christ lui-même. Celui qui est le souverain de l'univers, qui règne sur tous, devant qui tous doivent s'agenouiller, mais qui lui s'est abaissé, qui s'est donné courageusement en sacrifice pour sauver son peuple, son épouse, tous ceux qui se confient en lui. Cette masculinité-là ne méprise pas la gent féminine, mais elle est profondément galante. Elle assume ses responsabilités, elle sait ce que cela veut dire d'être un leader, un vrai leader. Le mari ne méprise pas sa femme, il n'exige aucune soumission de sa part. Paul ne dit pas aux maris de veiller à ce que leur femme les respecte. Non, rien de cela n'est mentionné. Et dans un sens, cela ne les concerne pas. Ce commandement est donné directement aux épouses, aux femmes. Le commandement qui leur est donné est celui d'aimer leur femme. Et cela, que leur femme les respecte ou non. Ce commandement ne dépend pas de sa soumission. Le mari a simplement à aimer sa femme, point à la ligne. Il doit aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église. Alors je pense que c'est le lavement des pieds dans Jean 13 qui illustre ça de manière très très claire. Le Seigneur, le chef de l'univers, sans cesser d'être le chef, s'est abaissé pour laver les pieds de ses disciples. C'était un signe ou une parabole mise en scène pour montrer ce qu'il allait faire à la croix. S'abaisser pour purifier son peuple, son épouse, par sa mort sacrificielle. Ce n'était pas quelque chose de facile pour Jésus. C'est même très très difficile, on peut penser au jardin de Gethsémané. Il lui fallait énormément de courage. Marie, voici le leadership auquel Christ vous appelle, le leadership de serviteur. C'est immense, n'est-ce pas? C'est un leadership qui dirige. Il s'agit bien de diriger. Ce n'est pas l'Église qui dirige Jésus, mais Jésus dirige l'Église pour son bien ultime. Donc, Marie dirige sa famille dans le couple pour le bien ultime de sa femme. J'aimerais nous suggérer, en me basant sur ce passage, qu'un leader qui suit Jésus, qui calque sa manière de diriger son couple sur Jésus, fait deux choses. Il dirige en protégeant sa famille, sa femme et sa famille, et il conduit en pourvoyant à ses besoins. Donc d'abord cette protection. Versets 25 à 26. Marie, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église, il s'est donné lui-même pour elle, afin de la conduire à la sainteté, après l'avoir purifiée et lavée par l'eau de la parole. Alors, Jésus a protégé son peuple de quoi ? Du jugement de Dieu. C'est pour ça qu'il est venu. Alors le mari n'a pas à faire ça. Il n'y a que Jésus qui peut faire ça. C'est Jésus qui sauve, qui purifie et la femme et le mari. Mais le mari est appelé à aimer sa femme d'une manière comparable. Dieu demande au mari de se donner pour le bien de sa femme. Il y a bien sûr un aspect physique de cette protection. Lorsque le cambrioleur arrive dans la nuit, c'est au mari de se lever et de protéger sa femme. Il ne peut pas, il ne doit pas se cacher derrière elle. Mais il y a aussi un aspect spirituel. Christ s'est sacrifié pour que son Église puisse être pure devant Dieu, en bonne santé spirituelle. Dieu donne cette tâche au mari de protéger son épouse, sa famille spirituellement. On protège sa famille en faisant de bons choix spirituels, en choisissant une église où elle sera nourrie, où il y a un enseignement biblique qui est sain, en établissant de bonnes habitudes en famille, en prenant le temps de prier ensemble, en disant la parole ensemble, en prenant l'initiative dans l'éducation chrétienne des enfants, en prenant l'initiative quand il faut se réconcilier. Bien sûr, le mari ne le fait pas seul. Dieu lui a donné une femme à ses côtés pour l'aider. Mais cette responsabilité lui incombe en premier lieu. C'est vrai, ce n'est pas facile de faire ça aujourd'hui. Mais la Bible demande au mari d'assumer cette masculinité haut de gamme qui n'abdique pas en refoulant ses responsabilités sur sa femme. Au bien souvent, les femmes usurpent le leadership de la mari, non pas parce qu'elles y sont opposées, mais parce que ce leadership est simplement absent. Et cela les frustre. Et ensuite, ça devient un cercle vicieux. Un mari qui dirige en protégeant son épouse à la manière de Jésus gagnera beaucoup plus facilement le respect de sa femme. Application peut-être pour les filles célibataires. Voilà le type de mari qui convient de chercher. Un mari dans le leadership, vous pouvez vraiment respecter. Un homme au leadership de qui vous pouvez vous soumettre de manière joyeuse et volontaire. Voilà un critère très très important. Et pour les hommes célibataires, voilà à quoi il faut tendre si vous voulez qu'une de ces filles vous dise oui. Le mari dirige, il est le chef de sa femme parce qu'il lui incombe de pourvoir à ses besoins aussi. Jetez un coup d'œil sur le verset 29. Jamais personne n'a détesté son propre corps. Au contraire, il le nourrit et en prend soin, tout comme le Seigneur le fait pour l'Église. Encore une fois, c'est le ministère de Jésus, le Dieu serviteur, qui est le modèle pour le mari. Jésus, le mari serviteur, fait tout pour que son Église, son épouse, soit nourrie et aille bien. Alors, il y a un aspect physique, matériel, émotionnel et spirituel. Encore une fois, ce n'est pas une question de le faire seul. Tout au long de l'histoire biblique, on voit que les femmes travaillaient et contribuaient financièrement au déroulement du foyer. Mais la parole donne au mari en premier lieu cette responsabilité. L'expression « en prendre soin » dans la Bible va loin. Pour prendre soin d'elle sur le plan émotionnel, cela veut dire l'aimer à l'exclusion de tout autre. Passer du temps avec elle pour la comprendre, à l'écouter, à l'encourager. Il y a aussi un aspect spirituel. Elle a besoin de son initiative dans la prière, dans les ministères et lieux de service du couple dans l'Église. Et pour le faire bien, il faut qu'il soit aussi à son écoute. Il faut qu'il se mette à sa place. Il faut qu'il lui demande des conseils. Dieu ne demande pas aux maris de faire ces choses mieux que leur femme, d'être plus sage qu'elle ou d'être plus compétent qu'elle. Là n'est pas la question. C'est simplement à lui de prendre l'initiative, de diriger en cherchant son bien et lui demander de l'aider à faire ça. Cette responsabilité est grande, elle n'est pas facile, mais Dieu est d'un grand secours, l'Esprit accompagne le mari chrétien, sa parole est suffisante pour l'instruire et le rendre sage. Qui est à la hauteur de ces choses? Nous avons besoin de mettre l'Évangile dans nos cœurs, de connaître la grâce surabondante, de voir la grandeur et la splendeur de ce que Dieu est en train de faire en Jésus-Christ, notre chef, le chef de l'Église. Et qui que nous soyons célibataires ou mariés, personnes mariées, nous avons besoin de garder nos yeux fixés sur ce vers quoi le mariage renvoie donc ce mariage permanent, éternel de Jésus avec son épouse, l'Église. C'est cette espérance-là qui peut nous aider jour après jour à soit jouer notre part dans cette parabole du mariage ou rester fidèle au Seigneur dans le célibat. Je vais conclure en priant. Prions.